Auteur du monde, tu as ouvert ce jour nouveau comme on tourne une nouvelle page dans un cahier. Immaculé, sans aucun trait encore, donne-moi d'y tracer les lettres, d'y inscrire les mots et les récits de ma vie sans appréhension de la page blanche, ouvert à l'incroyable nouveauté qui ce matin encore dessine des horizons. Tu as ouvert ce jour nouveau comme on tourne une nouvelle page dans un cahier, au gré des joies, des difficultés, des encouragements et des épreuves de la journée, des rencontres et des absences, que j'écrive, que je dessine sur les lignes, hors les marges, sans crainte des ratures et des mots oubliés du passé. Tu as ouvert ce jour nouveau comme on tourne une nouvelle page dans un cahier. Donne-moi avec sagesse de savoir la refermer ce soir sans regret et sans amertume, plein de joie et de ces espérances que ta main trace par-dessus chacun des traits, des lettres et des mots de mon existence. Aujourd'hui encore, comme hier et demain, ta grâce et ta paix me sont données, mais plus encore, elles sont partagées avec mes frères et mes sœurs en Christ et en humanité, ceux qui sont ici dans ta maison et ceux qui sont partout ailleurs. Amen. Bonjour à vous qui ce matin avez encore poussé les portes de ce temple, histoire de se mettre à l'abri. Que vous soyez des habitués ou des gens de passage, vous êtes ici, chez vous. J'avais oublié que lors d'une vacance pastorale, les prédicateurs sont très sollicités. Et le temps passe très vite entre deux cultes, finalement. Andrea nous guidera dans la musique et c'est Laurette et Nicolas qui ont ouvert les portes. La garderie, les enfants sont au milieu du temple. Et c'est très bien, le texte de dimanche dernier dans Marc parlait justement d'être comme des enfants. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés au début du carnet de chant. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. C'est Laurette qui va nous conduire dans la louange avec le psaume 19. Sentez-vous libre de votre position, de rester assis ou debout comme vous le souhaitez.
Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langue jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le plus simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire. elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité. Toutes, elles sont justes. Plus désirables que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuses que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé. Il trouve grand profit à les garder. Qui s'aperçoit des erreurs ? Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il n'ait pas d'emprise sur moi. Alors je serai parfait et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence, Seigneur, mon roc et mon défenseur. Et nous chantons le psaume 92.
Il est à la page 106 dans les carnets de chants. Ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter tes splendeurs au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, que ta surprenante en réjouit mon cœur, et je dirai, Seigneur, sagesse commente. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit à ma garde. Nous sommes invités chaque jour à reconnaître humblement que notre vie n'est pas toujours à l'image de celle de Jésus, même si nous avons mis nos pas dans les siens. Je vous invite à la prière. Nous confessons devant toi notre manque d'unité. Nous n'avons ni un même amour, ni une même pensée. En nous cohabitent rivalité et orgueil quand tu nous appelles à l'humilité, à l'accueil. Délivre-nous, Seigneur. Nous te remettons nos peurs et toutes nos craintes, nos erreurs et nos plaintes, notre cupidité, nos injustices, notre lâcheté. Délivre-nous, Seigneur. Oui, nous sommes enchaînés, prisonniers de nous-mêmes, pétrifiés nous refermons sur nos problèmes, nous nous sommes abîmés dans nos hésitations, nous nous sommes enfermés dans nos condamnations. Délivre-nous, Seigneur. Maintenant, apprends-nous à nous tourner vers toi, à nous mettre patiemment à l'écoute de ta foi. Que l'amour et la vie de ton Fils Jésus-Christ renouvellent notre cœur et transforment nos vies. Et nous restons assis pour chanter le spontané « De tous mes maux, il me guérit ». Je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de pardon et de réconciliation. Dans la deuxième lettre de Paul aux Philippiens, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, il est mort sur une croix. Et si par son humilité, Jésus-Christ est sauveur, s'il s'est dépouillé pour devenir serviteur, c'est pour nous montrer que son pardon est plus fort que nos oublis, nos fautes, nos ténèbres et nos morts. Ô ma joie et mon espérance, nous chantons ensemble. Et c'est encore dans la lettre de Paul aux Philippiens, c'est pas la deuxième, il n'y en a qu'une, mais c'est au chapitre 2, excusez-moi, que nous trouvons des mots pour entendre ce que Dieu souhaite pour notre vie. Le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Et nous terminons cette reconnaissance qui nous anime en chantant « De ton esprit emplit nos cœurs ». Dieu n'ignore rien de nos réticences ni de nos résistances devant sa parole. Il sait combien nous nous esquivons lorsque son évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsque sa parole nous interpelle trop, combien nous l'oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous annonce l'Écriture. Nous invoquons son Esprit Saint pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à la parole et une intelligence accueillante à la bonne nouvelle. Derrière les mots que nous allons entendre, qu'il nous donne de discerner la parole de vie, d'entendre et de mettre en pratique cette bonne nouvelle dans nos vies. Et Laurette va nous guider dans un premier texte ce matin.
Un premier texte dans le livre de Jacques, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Et ce n'est pas extrait du Capital de Karl Marx. Malheur à vous, les riches. Alors, vous, les riches, pleurez à grand bruit sur les malheurs qui vous attendent. Votre richesse est pourrie, vos vêtements rongés des vers, votre or et votre argent rouillent, et leur rouille servira comme vous de témoignage. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous vous êtes constitué des réserves à la fin des temps. Voyez le salaire des ouvriers qui ont fait la récolte dans vos champs, retenus par vous. Ils crient et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur. Vous avez eu sur terre une vie de confort et de luxe. Vous vous êtes repu au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez assassiné. Le juste, il ne vous résiste pas.
Un deuxième texte nous est proposé ce matin dans le Premier Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, les versets 24 à 30. Moïse sort de la tente et il rapporte au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 anciens d'Israël et il les place autour de la tente. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il parle à Moïse. Il prend une part de l'Esprit qui est en Moïse et il la donne aux 70 anciens. Dès que l'Esprit se pose sur eux, ils se mettent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuent pas. Deux hommes sont restés dans le camp. L'un s'appelle Eldad, l'autre Médad. Ils étaient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne sont pas sortis pour aller à la tente. L'Esprit se pose sur eux et ils se mettent à parler comme des prophètes au milieu du camp. Un garçon court prévenir Moïse. Dans le camp, Eldad et Médad parlent comme des prophètes. Josué, fils de Noun, est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse et il dit « Moïse, mon maître !» « Dis-leur de se taire. » Et Moïse répond, « Est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, et si seulement ils étaient tous prophètes. » Ensuite, Moïse retourne au camp avec les 70 anciens. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 38 à 48. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Attention de ne pas tomber dans le péché. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Et si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de la souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu et la souffrance et recevra du sel pour redevenir pur. Le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Je vous invite à vous lever pour chanter le spontané des lectures. Préjuger, jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose. Opinion adoptée sans examen, souvent imposée par le milieu ou l'éducation. C'est bien difficile que de dire que je n'en ai jamais des préjugés. Ce serait même mentir complètement. En psychologie aussi, on sait que le préjugé est nécessaire pour savoir un peu quelle attitude adopter face à une personne inconnue qui se présente devant nous. L'essentiel étant, peut-être, sans doute, de ne pas se laisser enfermer dans ses préjugés, qu'ils soient, comme le dit la définition que j'ai prise plus tôt, en bien ou en mal. Et les textes du jour nous montrent comment les hommes, dans l'Évangile, ont été aussi confrontés à leurs préjugés. Ce jour-là, à Capernaum, Jean, fils de Zébédée, n'est pas content. C'est quelqu'un qui se met en colère facilement, il est d'un tempérament assez sanguin. Nous le voyons ailleurs avec son frère Jacques, proposer à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur un village samaritain qui les avait mal reçus. Lui et les disciples. Jean vient se plaindre auprès de Jésus. Et qu'est-ce qui l'amène dans cette démarche? La même qui a motivé des siècles avant la réaction de Josué quand deux hommes se sont mis à prophétiser au milieu du camp, Eldad et Médad. ce que Josué et Jean n'ont pas su supporter, c'est que des hommes agissent au nom du Seigneur en prophétisant, c'est-à-dire en parlant en son nom ou en chassant un démon, c'est-à-dire en délivrant quelqu'un d'une puissance mauvaise, sans en avoir officiellement le droit. Eldad et Médad faisaient peut-être partie des 70 ou 72 anciens choisis par Moïse pour l'aider à porter la charge du peuple, mais ils n'étaient pas autour du sanctuaire quand ils ont prophétisé. Le sanctuaire étant le lieu où se tenait la présence cachée et glorieuse de Dieu. Et cet homme qui chasse les démons au nom de Jésus, lui non plus en quelque sorte, n'est pas à une place autorisée pour le faire. Il n'est pas du cercle officiel des disciples. Josué, comme Jean, ont le souci, apparemment légitime, de bien délimiter l'action de Dieu pour reconnaître ce qui est véritablement une parole ou une intervention du Seigneur et discerner ce qui ne vient pas de lui. Et tous les deux, pour cela, s'en remettent à des critères objectifs, bien clairs, bien établis, bien visibles. Josué à l'enceinte du sanctuaire, si on prophétise dans le sanctuaire, dans le tabernacle, c'est Dieu qui parle. N'allons pas trop vite nous moquer de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se fie à la parole des experts, aux avis autorisés, aux milieux autorisés. Bien que parfois. Et cela est aussi vrai dans certaines églises dont les autorités revendiquent le label de seuls héritiers authentiques de l'autorité et de la vérité qui sont en Jésus-Christ. Là où est le successeur patenté de l'apôtre Pierre, là est Jésus-Christ. Dès lors, ce qui comptera le plus dans le discernement de la vérité et de l'autorité d'une parole, cela devient moins son contenu, même s'il est fort ou bienfaisant, que celui qui la professe. Quant à Jean, fils de Zébédée, son critère de vérité à lui est encore plus précis. Il faut être avec lui, il faut être de son groupe, le seul à garantir le label de disciple authentique du Christ. Je doute bien que cette position interpelle le prédicateur laïc que je suis, parce que je n'étais pas. Mais Josué, comme Jean, ont commis la même erreur. Ils se sont attachés au droit, au règlement, à la loi, en un mot, à la lettre, et ils ont complètement oublié l'esprit et sa liberté. Eldad et Médad ont reçu l'esprit du Seigneur, ils ont parlé de la part du Seigneur, ils ont prophétisé. Josué ne le nie pas d'ailleurs, comme si cela lui était apparu de manière évidente, mais au lieu de se réjouir d'une parole venue de Dieu, une parole qui pourra éclairer, guider, réconforter, sauver, il crie au scandale, parce qu'il n'avait a priori pas le droit de le faire. Jean, le disciple, quant à lui, oublie quelque chose d'essentiel. Par cet exorciste, dont Marc ne nous donne pas le nom, cet exorciste qui avait peut-être vu Jésus accomplir des miracles, des démons ont été chassés et nous savons que c'est là un signe que le royaume de Dieu s'est avancé. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté et toutes les puissances de domination, les chaînes, se mettent à tomber. Mais voilà encore. Au lieu de se réjouir de voir Satan vaincu et le mal reculé, Jean proteste. Un peu comme ces pharisiens qui, au début de l'évangile de Marc, s'en prennent à Jésus d'avoir osé guérir un homme le jour où il ne faut pas travailler. le jour du sabbat, au lieu de se réjouir de voir un paralytique redressé comme un homme remis debout, rendu à une vie normale et libre d'enfant de Dieu. Peut-être, au fond, cette réaction s'explique par la jalousie, voire par un goût du pouvoir. Jean faisait partie de ses disciples qui venaient de se disputer juste avant cet épisode pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Comme ses collègues disciples, il tirait sans doute un grand orgueil d'appartenir au cercle de celui qui annonçait le royaume avec tant d'autorité et de force, au point que sa mère demandera pour lui à Jésus une place de ministre dans le royaume. Mais Jésus lui-même, avec une extraordinaire humilité, reconnaît et accepte que son nom puisse être invoqué pour guérir et délivrer en dehors même de son contrôle. Comme Moïse, qui se réjouit que l'Esprit de Dieu souffle en dehors du sanctuaire et en dehors de lui-même. Moïse, qui humblement vient de reconnaître devant Dieu que la charge d'annoncer sa parole au peuple est trop lourde pour un seul homme, fût-ce Moïse lui-même. Dans l'extrait de la lettre de Jacques, le livre que nous parcourons depuis quelques dimanches, aux chrétiens dispersés, comme on peut le lire, depuis quelques semaines, nous sommes aussi interpellés sur nos préjugés d'une manière peut-être un peu plus abrupte encore. D'une part, et les termes sont très tranchés pour ce qu'il nous est proposé de vivre en Église, richesse et injustice sont à proscrire de nos vies. Mais entendons-nous bien, fondamentalement, la pauvreté n'est pas une vertu, ni la richesse une tare. Tout dépend de la disposition d'esprit et de cœur dans laquelle on vit cela. En principe, on peut être riche sans s'attacher à ses biens, on peut être riche et juste, riche et généreux. Mais on peut aussi être riche et injuste pour avoir encore plus, car souvent le riche a encore envie de le devenir plus. Patience et fermeté. Attendons-nous le retour du Seigneur avec patience ou impatience? En fait, le problème n'est pas là. La vraie question, c'est l'attendons-nous vraiment? Par rapport à cet avènement, la formule « plus qu'hier et moins que demain » est une profonde réalité. Nous en sommes plus proches aujourd'hui qu'hier. Et cela oriente-t-il notre façon de vivre? Et de plus, la patience doit résister à l'épreuve du temps. C'est pourquoi la fermeté est nécessaire. Le chrétien peut être patient et ferme, même dans l'épreuve, parce qu'il attend le royaume et compte sur les forces qui viennent du Seigneur lui-même. Dans tout cela, il s'agit encore et finalement de reconnaître l'Esprit Saint. C'est un peu comme si c'était la suite de la prédication de dimanche dernier. Il inspire qui il veut et il se sert de qui il veut. Il prend la liberté d'agir selon sa volonté et non la nôtre. Aucune autorité humaine, qu'elle soit l'autorité d'un individu, d'une institution, d'une histoire ou d'une antécédence, ne peut se substituer à la volonté du Seigneur. Le Seigneur qui continue de nous adresser sa parole, même quand ceux qui avaient la charge de parler en son nom ne peuvent plus ou ne veulent plus le faire, accepter cela, c'est découvrir le secret d'une joie qui a remis debout Moïse complètement déprimé. Éprouver la joie de voir le Seigneur à l'œuvre tout autour de nous, dans ce prochain qui est différent de nous, qui ne porte pas la même étiquette, mais qui glorifie Jésus-Christ par ce qu'il est, par ce qu'il dit ou ou par ce qu'il fait. Moïse a été soulagé parce qu'il a reçu la certitude qu'il n'était pas seul. Jean, fils de Zébédée, aurait manqué cette découverte si Jésus ne l'avait pas repris. Il voulait réduire les serviteurs du royaume de Dieu au groupuscule autorisé des apôtres, mais sur le chemin de l'Évangile, on envoie des serviteurs parallèles, si vous me passez l'expression. De cet homme qui ne protestera pas quand les disciples viendront réquisitionner son petit âne pour y faire asseoir le Messie, à cette femme anonyme qui n'hésitera pas à sacrifier un parfum de grand prix pour honorer Jésus un peu avant sa mort, ou à Joseph d'Arimathée qui viendra oser réclamer le corps de Jésus pour lui donner une digne sépulture quand tous ses disciples auront fui. Jésus, ce jour-là, a simplement rappelé à Jean que l'important n'est pas de savoir où commence et où finit le cercle des disciples authentiques, ou si vous préférez, la véritable Église. On ne la trouvera ni en un lieu, ni sous une étiquette particulière. Cette Église véritable, seul le Père en connaît les frontières. Mais nous en connaissons le centre, celui dont le nom est Jésus-Christ, ce nom seul par lequel nous pouvons être sauvés. Et nous nous réjouirons de découvrir le visage du Christ dans celui de tous les frères et de toutes les sœurs que le Père nous donne. Les préjugés n'ont presque plus besoin d'être. Amen. Je vous invite à vous lever pour réciter ensemble la confession de foi qui est à la fin du carnet de chants. La dernière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est monté. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et nous chanterons ensemble le cantique 1303. Quand les montagnes s'éloigneraient, il est à la page 204. Par l'offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église pour qu'elle soit toujours un lien vivant de rencontre les uns avec les autres et de rencontre avec Dieu, pour qu'elle témoigne de l'amour de Dieu auprès de nous. Par l'offrande, il n'y a plus ni de riches ni de pauvres. L'espérance que nous avons affirmée, nous la confirmons dans nos actes. Notre offrande exprime aussi le règne de Dieu sur nos vies et sur nos biens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le moment de l'offrande. Thank you. laisse la parole à Nicolas pour les annonces, si c'est toujours lui qui les fait, ou si les choses sont chargées.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer des annonces et Pierre en fera aussi après moi. Donc je vais déjà annoncer qu'il n'y a pas de chorale cette semaine, qu'on a toujours besoin de volontaires pour les travaux du presbytère. Donc il y a toujours une petite liste à l'entrée où on peut rajouter son nom et il faut contacter ou Franck Armingo ou Pierre pour continuer les travaux qui restent à faire. On a aussi besoin de volontaires pour servir de transporteurs à l'occasion du synode qui aura lieu à Annecy le week-end du 12 novembre. Et donc, il s'agit de pouvoir transporter les personnes qui participent au synode, sachant qu'il y aura à la fin du synode un culte à l'église de Cran-Mosinges. Il y a une feuille jaune qui a été mise par Francine où vous pouvez vous inscrire si vous êtes volontaire pour les transports. Ensuite, le groupe prière se réunit mercredi à 18h et le culte du 17 octobre sera animé par Gilles Pivot et ça sera aussi la journée d'offrande d'automne. Alors, je ne vais pas insister en tant que trésorier, mais c'est important. Merci.
Bonjour à tous. Je voulais simplement faire un petit point à 4, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, simplement pour vous signaler, d'une part, qu'il y a l'appel du mois qui est disponible sur le présentoir. Voilà, merci à Thierry de nous les apporter fidèlement. Ce mois-ci, l'appel du mois concerne la situation en République démocratique du Congo. Voilà, je continue avec la 4 pour vous annoncer qu'il y a le rassemblement régional de la 4 qui aura lieu cette année à Annecy le 16 octobre. Et je voulais attirer votre attention particulièrement sur la conférence de l'après-midi à 15h. Cette conférence sur le sujet de l'espérance sera dite par le pasteur Michel Bertrand, ancien président de l'Église réformée de France, professeur de théologie à Montpellier et responsable de la commission théologie à la 4 France. Voilà, et enfin, un troisième point pour la 4. Le 1er octobre est proposé dans toutes les églises de la région une prière commune pour Kossoul. Kossoul, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le filleul du groupe A4 d'Annecy. Voilà, donc il a reçu dernièrement la date de son exécution. Il est prisonnier dans les prisons aux États-Unis. Et c'est un monsieur qui est suivi par le groupe A4 d'Annecy depuis de nombreuses années. Voilà, et donc on a décidé de faire un appel pour prier spécialement tous ensemble pour lui, de toutes les confessions chrétienne le 1er octobre. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, vous l'avez certainement reçu par voie informatique, mais peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont pas ce moyen. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Francine. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que notre recherche d'un nouveau pasteur a abouti, et c'est avec joie que vous nous annonçons que le pasteur Thibaut de la Ruelle prendra ses fonctions à Annecy en juillet 2022. Thibaut et son épouse ont 2 enfants, et donc son épouse est en activité, elle doit trouver un poste dans notre région, elle est enseignante dans le secteur privé. Voilà, Thibaut a été rencontré à 2 reprises par le conseil presbytéral. Une première fois le 1er août, où il a fait le voyage à Annecy avec sa famille et il a présidé le culte. Si vous voulez l'entendre, vous pouvez toujours écouter ce culte sur le site de l'Église. Et nous l'avons rencontré une deuxième fois en visioconférence, mi-août, alors qu'il était en vacances. Et après, s'en est suivi un temps de réflexion, prière et discernement, qui s'est terminé par le vote du Conseil à bulletin secret fin août. Le processus a été validé le week-end dernier par le Conseil régional, donc, qui a validé notre décision. Il nous reste maintenant 9 mois pour préparer son arrivée parmi nous. Que la paix et l'amour de Dieu soient sur nous tous. Voilà ce que disait le message. Je vous remercie.
C'est une annonce qui soulage un peu le train des prédicateurs laïcs, vous vous en doutez. Je pense, j'ai une pensée particulière ce matin, je crois qu'il faudra le remercier, pour Christophe, qui coordonne tous les cultes, parce qu'il y a eu une semaine un peu chaude, là, au niveau des dates et des présences de chacun. Donc je crois qu'on pourra le remercier en temps et en heure. Merci à Andrea qui nous a guidés dans la musique, et puis à Laurette et Nicolas pour l'accueil. J'ai lu dans les nombreuses lectures que je fais que le mot liturgie, j'ai fait une découverte cette semaine, le mot liturgie signifie en grec « service public ». Le public était là, j'espère que le service a été rendu. J'en profite juste, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de la CIMADE, n'est-ce pas? Mercredi 29, la CIMADE sera présente dans une soirée festive. Bon, ce n'est pas une conférence, pas rien, c'est une soirée de rencontre ouverte à tout le monde. L'association qui s'appelle Agitateurs de rêve sur Annecy, qui fait de la médiation culturelle dans plein des domaines, a été chargée par la ville d'Annecy d'animer le dernier mois de vie des haras avant leur transformation. Et donc, la soirée de clôture, c'est mercredi, et ils se sont tournés vers les associations qui œuvrent à destination des personnes migrantes pour aller à la rencontre des gens qui voudront bien venir, et puis pour terminer en fanfare. Donc voilà, c'est un moment festif, on espère qu'il fera beau. Mais bon, sinon, on se mettra à l'intérieur. Voilà, on vous attend nombreux et avec plaisir. Ah pardon, excusez-moi, l'heure. À partir de 17h30, c'est en fin d'après-midi, début de soirée. Merci. Seigneur Dieu, Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses. C'est pourquoi, assurés de sa parole, nous partageons sa prière. Quand les nations inscrivent à leur budget des dépenses de guerre, alors que le Christ dit « Rengaine ton épée ». Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent les vêtements démodés, alors que le Christ dit « J'avais faim, j'avais soif ». Quand les gouvernements puissants prétendent que leur politique est bénie des dieux, alors que l'Écriture affirme que Dieu aide les sans-pouvoir. Quand les chrétiens cherchent le royaume de Dieu dans la forme de leur propre église, comme si le Christ était venu construire des barrières et non les abattre. Quand des femmes qui se lèvent pour leur dignité sont traitées avec mépris et dédain. Quand des hommes s'efforcent d'être durs parce qu'ils ont peur d'être tendres. Quand nous nous soucions d'être adultes et oublions de devenir comme des enfants. Quand nos prières vacillent, que notre foi faiblit, que notre lumière s'estompe. Quand Jésus-Christ nous appelle, Seigneur Dieu, tu as dit, ton règne est parmi nous. Ouvre nos oreilles pour l'entendre. Ouvre nos mains pour l'accueillir. Ouvre nos cœurs pour le servir. Et réunis nos voix et toutes nos intentions dans la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est le moment de l'envoi et de la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Va sur les routes de la vie. Tu n'es pas seul. Dieu te porte. Ne crains pas. N'aie pas peur. Dieu te porte. Ouvre tes mains. Partage ton pain. Libère ton cœur. Dieu te porte. La bénédiction qui descend sur nous est encore manifestation de la grâce, de la paix et de l'amour inépuisable de Dieu manifesté en Jésus-Christ son Fils. Amen. Et nous chantons le dernier spontané.
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'éternité. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez
un bon dimanche et une bonne semaine.